Laudetur Jesus Christus.
Un contrôle américain sur la bande de Gaza, telle est la proposition choc de Donald Trump hier soir alors qu'il recevait à la Maison Blanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Des propos qui suscitent la sidération et ne provoquent pas l'indifférence en Israël. Nous irons à Tel Aviv au début de ce journal. Gaza, il en sera aussi question dans notre dossier en fin de journal avec notre invité, le père Gabriel Romanelli, le curé de la paroisse de la Sainte Famille à Gaza. Il nous apportera son témoignage de l'aide de l'Église catholique sur place à la population, une lueur d'espérance dans un océan de violence. Dans ce journal également, la première rencontre hier entre le président intérimaire syrien et Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Et puis nous irons en Afghanistan où les talibans poursuivent leur politique de répression à l'égard des femmes. Radio Begum, l'une des dernières radios indépendantes du pays qui parle des femmes afghanes, a été suspendue. Nous entendrons la réaction de Reporters sans frontières.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, Gaza sera-t-il un jour la nouvelle Côte d'Azur du Proche-Orient? La question n'est pas seulement obscène ou rhétorique, mais elle se pose suite aux propos de Donald Trump la nuit dernière à la Maison-Blanche. Le président américain recevait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l'avenir du territoire palestinien, détruit par 15 mois de guerre, était au cœur de leurs entretiens. Et le milliardaire a provoqué la sidération en envisageant un contrôle américain de la bande de Gaza. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus, bien sûr, chez son hôte, ainsi qu'en Israël, à Tel Aviv, Julia Ganancia.
C'est une rencontre qui fait la une de tous les journaux en Israël ce matin, et il y a fort à parier que les déclarations de Donald Trump vont être décortiquées, analysées, commentées toute la journée, et pour cause. Le président américain a évoqué une présence américaine sur le long terme sur le territoire palestinien lors d'une conférence de presse commune avec Benjamin Netanyahou, qui a considéré que cela pourrait, je cite, « changer l'histoire ». Donald Trump a dit imaginer faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient et a affirmé vouloir se rendre prochainement en Israël, à Gaza et en Arabie Saoudite. La réunion entre les deux hommes qui a suivi la conférence de presse a duré 39 minutes. Le Premier ministre israélien en est sorti souriant et satisfait, et non sans raison. Il revient en Israël à la fin de la semaine avec des lignes diplomatiques, sécuritaires et politiques qui pourraient le maintenir au pouvoir jusqu'à la fin de son mandat. À Tel Aviv, Julia Ganancia pour Radio Vatican.
Et sans surprise, les réactions sont nombreuses suite aux propos de Donald Trump sur la bande de Gaza. L'Arabie Saoudite, partenaire privilégié des Américains au Moyen-Orient, rappelle que sa position sur la création d'un État palestinien reste ferme et inébranlable. Les dirigeants mondiaux doivent respecter la volonté des Palestiniens qui veulent vivre à Gaza, rétorquait le représentant de la Palestine aux Nations Unies. Et Donald Trump, lui, doit recevoir dans la semaine le roi Abdallah II de Jordanie et s'entretenir également avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, l'Égypte et la Jordanie, deux pays à qui il demande d'accueillir les Palestiniens une fois la bande de Gaza vidée de ses habitants. Le président syrien par intérim Ahmad al-Shara était hier en Turquie pour son deuxième déplacement à l'étranger après l'Arabie Saoudite. Deuxième déplacement depuis son arrivée au pouvoir il y a bientôt 2 mois. Ahmad al-Shara était reçu à Ankara par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La rencontre a duré un peu plus de 3 heures, suivie d'une courte déclaration conjointe qui visait avant tout pour les deux dirigeants à afficher leur bonne entente. À Ankara, un Andlauer.
Recep Tayyip Erdogan a salué d'emblée une visite historique qu'il a décrite comme le commencement d'une période d'amitié constante et de coopération entre la Turquie et la Syrie. Ahmed al-Shara, pour sa part, a dit vouloir transformer les relations turco-syriennes en une coopération stratégique profonde. Les deux hommes n'ont pas fait d'annonce à l'issue de leur rencontre. Devant la presse, ils n'ont pas évoqué en particulier les contours d'une possible coopération militaire qui pourrait impliquer, selon des sources citées par l'agence Reuters, l'entraînement par la Turquie des forces armées syriennes ou encore l'établissement de bases aériennes turques en territoire syrien. « Nous sommes d'accord sur à peu près tous les sujets », s'est néanmoins félicité Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a insisté sur la lutte contre le terrorisme, ce qui, pour Ankara, implique le démantèlement de la région kurde autonome dans le nord-est de la Syrie.
Nous avons tout particulièrement discuté des mesures qui seront prises contre l'organisation terroriste séparatiste et ses partisans qui occupent le nord-est de la Syrie. J'ai souligné que nous étions prêts à apporter le soutien nécessaire à la Syrie dans la lutte contre toutes les formes de terrorisme. Je voudrais dire ma satisfaction face à la forte volonté de mon frère Ahmed al-Shara au sujet de la lutte contre le terrorisme.
Ahmed al-Shara a conclu l'échange en invitant le président turc à une visite en Syrie. À Ankara, Anne-Laure pour Radio Vatican.
C'est peut-être l'amorce d'un tournant dans la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky se dit prêt à des négociations directes avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le président ukrainien l'a souligné lors d'une interview à une chaîne britannique et précisé que ces discussions pourraient se faire avec quatre participants. Outre les belligérants, il pourrait s'agir des États-Unis et de l'Union européenne. Je vous en parlais en titre, nous partons en Afghanistan où les talibans poursuivent leur répression vers les femmes du pays. En témoigne la fermeture de Radio Begum, l'une des rares stations indépendantes du pays créée par une femme et dont les programmes sont destinés aux femmes. Selon le régime des mollahs, la radio aurait violé les règles de diffusion et diffuser du contenu provenant de réseaux de télévision basés à l'étranger. Une décision préoccupante pour Célia Mercier, elle est la responsable du bureau Asie du Sud à Reporters sans frontières et elle revient sur la politique de censure et de répression toujours plus grande des médias par les talibans.
Au cours des trois dernières années, la répression des journalistes afghans n'a cessé de s'intensifier et on observe aussi un durcissement idéologique ces derniers mois. En 2024, les autorités talibanes ont fait fermer au moins 12 médias, publics et privés, dans 6 provinces d'Afghanistan. De nombreux contenus sont interdits, comme la critique des talibans, la musique, les séries considérées comme contraires aux valeurs de l'islam. Et dans certaines provinces également, la diffusion d'images représentant des êtres vivants. À Rost, les femmes n'ont plus le droit d'appeler les radios. Donc depuis le retour au pouvoir des talibans, au moins 141 journalistes ont aussi été victimes d'interpellations ou de détentions, et tout particulièrement les collaborateurs de médias internationaux ou en exil qui sont particulièrement visés et qui sont accusés de dénigrer les talibans. Le retour au pouvoir des talibans a vraiment sonné le glas de la liberté de la presse en Afghanistan et les médias locaux vivent dans un climat de peur et doivent diffuser des informations censurées. Donc le soutien qui peut être apporté serait pour les médias en exil qui sont une cinquantaine et sont animés par des journalistes afghans réfugiés à l'étranger. Ces médias ont un rôle crucial pour délivrer une information non censurée au public afghan.
Célia Mercier, responsable du bureau Asie du Sud à Reporters sans frontières, interrogée par Delphine Allaire. L'intelligence artificielle sera au cœur d'un grand sommet international organisé à Paris la semaine prochaine. Une rencontre pour évoquer les enjeux colossaux de l'AI, enjeux économiques mais également éthiques. Le Saint-Siège devrait y envoyer un représentant. En attendant, les géants du secteur eux, poursuivent leur développement. C'est le cas de l'américain OpenAI, dont le PDG Sam Altman est en tournée en Asie ces jours-ci. Il a signé des partenariats en Corée du Sud ces derniers jours, alors que son rival chinois DeepSeek fait beaucoup parler de lui. À Séoul, la correspondance de Sergio Fioretti.
En tournée en Asie, Sam Altman, PDG d'OpenAI, enchaîne les partenariats. Après le géant japonais des télécoms SoftBank pour un investissement de 500 milliards de dollars aux États-Unis, OpenAI fait affaire cette fois avec les Sud-Coréens de Kakao. Le groupe Kakao est l'un des piliers de la technologie en Corée du Sud, regroupant aussi bien une banque en ligne que des applications de messagerie ou de taxi. Le partenariat entre OpenAI et Kakao devrait permettre à l'entreprise sud-coréenne d'intégrer l'intelligence artificielle ChatGPT dans ses services. Les applications du quotidien ne sont pas uniquement la cible de la visite de Sam Altman. Ce dernier s'est également entretenu avec le PDG de SK Hynix, géant des semi-conducteurs, ces puces électroniques qui permettent notamment à l'intelligence artificielle de fonctionner. Pays de haute technologie, la Corée du Sud pourrait être un allié important pour OpenAI afin d'affiner sa technologie et de la proposer sous différentes applications dans le monde entier. C'est le Fioretti, Séoul, Radio Vatican.
La justice française n'enquêtera pas sur les crimes sexuels de l'abbé Pierre pour cause de prescription. La conférence des évêques de France, qui avait demandé à la justice d'étudier la possibilité d'une enquête, dit regretter la décision du parquet tout en la comprenant. L'Église de France qui maintient ses archives ouvertes pour les journalistes et les chercheurs ainsi que pour la commission de la Fondation Emmaüs afin qu'elle poursuive son travail. Et puis heureux celui qui n'a pas perdu l'espérance. Tel est le thème choisi choisi par le pape pour la 5e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui aura lieu cette année le dimanche 27 juillet dans le cadre de l'année jubilaire. Cette journée, instituée par François en 2021, elle se veut une occasion de réfléchir à la manière dont les grands-parents et les personnes âgées peuvent devenir un signe d'espérance dans chaque famille et chaque communauté ecclésiale. Plus de détails à retrouver sur cette journée mondiale et ce message, bien sûr, à une seule adresse, vaticannews.va. Retour ce matin dans la bande de Gaza pour y parler de la réalité, c'est-à-dire des gens qui vivent Gaza, où l'Église apportera toujours la lumière de l'espérance. C'est ce qui motive celui qui est depuis 2019 le curé de la paroisse de la Sainte Famille à Gazaville. Au cours des 15 mois de guerre, le père Gabriel Romanelli s'est efforcé chaque jour d'apporter un peu de réconfort, non seulement à sa petite communauté catholique d'à peine plus de 500 personnes, mais à tous ceux et celles qui se présentaient à lui. Chaque jour, entre des temps de prière, de spiritualité avec ses paroissiens et sous les bombes pendant 15 mois de guerre, il a réalisé des petits miracles en parvenant à donner de la nourriture à 17 000 familles, autrement dit 100 000 personnes, alors que l'aide humanitaire n'entrait qu'au compte-gouttes dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, tandis que les bombardements ont cessé et que les Gazaouis réfugiés dans le sud de l'enclave rejoignent le nord du territoire, le missionnaire argentin du Verbe incarné continue d'apporter un soutien spirituel, car il faut maintenant reconstruire par-dessus les maisons détruites, les âmes profondément blessées à Gaza. Le père Gabriel Romanelli est notre témoin ce matin pour le dossier de la rédaction.
On essaye de continuer à Gaza la mission qu'on a toujours eue ici. Et alors, pour moi, trois priorités qui ont toujours m'aidé beaucoup pendant cette guerre terrible. La première chose, c'est la conviction que je vais protéger la présence de Jésus dans l'Eucharistie ici à Gaza. En second lieu, d'aider la présence chrétienne qui est très effective et très, très forte, même si le numéro est très réduit. Et en troisième lieu, la foi chrétienne elle est ouverte à tous. Alors, de donner les témoignages de la charité, de l'amour pour tous les habitants de toute la région, avec les écoles, les cliniques, les aides aux pauvres, aux besoins de toute la population civile. Et en plus de ça, de visiter les malades, les personnes âgées. Mais notre départ, c'est de l'esprit pour arriver vraiment à soigner même le corps des personnes. Je pense que si on oublie cette dimension spirituelle, notre mission ici, pour nous, missionnaires, serait impossible.
Les Gazaouis ont été profondément blessés, touchés par cette guerre. Mais on peut penser aux enfants. Comment maintenant pouvons-nous essayer de les reconstruire et de leur faire espérer un avenir de paix ?
La destruction physique, que c'est vraiment terrible, c'est un signe de la destruction morale, et spirituelle, humaine de toute la population. Pour les enfants, on a essayé, on essaye encore de faire un oasis pour les protéger, pour essayer qu'ils expérimentent un peu d'espoir, d'espérance pour leur avenir. Mais c'est assez difficile parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas un signe clair de l'avenir de Gaza. C'est pénible pour les adultes et pour les enfants. Parce qu'on l'a demandé, on demande toujours, qu'est-ce que tu veux ? On veut la paix, on veut revenir chez nous. Et alors, pour s'aimer l'espoir, il faut d'abord être sincère et essayer de mettre des solutions réelles. Des solutions réelles, c'est d'abord respecter chaque personne humaine, chaque enfant, chaque petit enfant, palestinien, israélien, et juif, chrétien, musulman ou même athée. Il faut respecter la personne humaine. Et c'est ça que, même dans notre petit, on essaye de faire.
En matière de nécessité, Père Romanelli, quelles sont les urgences aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est nécessaire pour les Gazaouis ?
La première chose, c'est de donner une réponse d'espoir au niveau humain, qui dit oui, vous serez traités comme des êtres humains. Vous aurez liberté, vous aurez la possibilité de rebâtir votre ville, votre maison avec l'aide internationale, parce que la guerre s'est faite avec l'aide internationale. Alors la paix doit aussi arriver avec l'aide internationale. En deuxième lieu, l'eau. Il n'y a pas d'eau. et plus de nourriture, et en plus de ça, le système sanitaire. Plus de 10 000 blessés encore attendre pour être soignés, parce que la plupart des hôpitaux ils ont été bombardés pendant la guerre. Mais je pense que la première chose, c'est effectivement donner un signe clair que cette trêve, c'est le début de la fin de cette guerre et le commencement d'une période de paix.
Voilà, interrogé par Jean-Charles Puzolu, le père Gabriel Romanelli, le curé de la paroisse de la Sainte Famille dans la bande de Gaza, était l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h. Nous reviendrons évidemment notamment sur l'audience générale du pape. Excellente journée à tous.